Chapitre 7, 19 mai 1833. Blenheim, Louis XIV, forêt hercynienne, les barbares, source du Danube. Le 19 mai à midi, j'avais quitté Ulm. À Dillingen, les chevaux manquèrent. Je demeurai une heure dans la grande rue, ayant pour récréation la vue d'un nid de cigogne, planté sur une cheminée comme sur un minaret d'Athènes. Une multitude de moineaux avaient fait insolemment leur nid dans la couche de la paisible reine au long cou. Au-dessous de la cigogne, une dame, logée au premier étage, regardait les passants à l'ombre d'une jalousie demi-relevée. Au-dessous de la dame était un saint de bois dans une niche. Le saint sera précipité de sa niche sur le pavé, la femme de sa fenêtre dans la tombe, et la cigogne. Elle s'envolera. Ainsi finiront les trois étages. Entre Dillingen et Donauwerth, on traverse le champ de bataille de Blenheim. Les pas des armées de Moreau, sur le même sol, n'ont point effacé ceux des armées de Louis XIV. La défaite du grand roi domine dans la contrée les succès du grand empereur. Le postillon qui me conduisait était de Blenheim. Arrivé à la hauteur de son village, il sonna du cor. Peut-être annonçait-il son passage à la paysanne qu'il aimait. Elle tressaillait de joie au milieu des mêmes guérets, où 27 bataillons et 12 escadrons français furent faits prisonniers, où le régiment de Navarre, dont j'ai eu l'honneur de porter l'uniforme, enterra ses étendards au bruit lugubre des trompettes. Ce sont là les lieux communs de la succession des âges. En 1793, la République enleva de l'église de Blenheim les guidons arrachés à la monarchie de 1704. Elle vengeait le royaume et immolait le roi. Elle abattait la tête de Louis XVI, mais elle ne permettait qu'à la France de déchirer le drapeau blanc. Rien ne fait mieux sentir la grandeur de Louis XIV que de trouver sa mémoire jusqu'au fond des ravines creusées par le torrent des victoires napoléoniennes. Les conquêtes de ce monarque ont laissé à notre pays des frontières qui nous gardent encore. L'écolier de Brienne, à qui la légitimité donna son épée, enferma un moment l'Europe dans son antichambre. Mais elle en sortit. Le petit-fils de Henri IV mit cette même Europe au pied de la France. Elle y est restée. Cela ne signifie pas que je compare Napoléon à Louis XIV. Hommes de divers destins, ils appartiennent à des siècles dissemblables, à des nations différentes. L'un a parachevé une ère, l'autre a commencé un monde. On peut dire de Napoléon ce que dit Montaigne de César. J'excuse la victoire de ne s'être pu dépêtrer de lui. Les indignes tapisseries du château de Blenheim, que je vis avec Pelletier, représentent le maréchal de Tallard, ôtant piteusement son chapeau au duc de Marlborough, lequel est en posture de Rodomont. Tallard n'en demeura pas moins le favori du vieux lion. Prisonnier à Londres, il vainquit, dans l'esprit de la reine Anne, Marlborough qu'il avait battu à Blenheim, et mourut membre de l'Académie française. C'était, selon Saint-Simon, un homme de taille médiocre avec des yeux un peu jaloux, plein de feu et d'esprit, mais sans cesse battu du diable par son ambition. Je fais de l'histoire en calèche. Pourquoi pas? César en faisait bien en litière. S'il gagnait les batailles qu'il écrivait, je n'ai pas perdu celle dont je parle. De Dillingen à Donauwerth, riche plaine d'inégal niveau où les champs de blé s'entremêlent aux prairies. On se rapproche et on s'éloigne du Danube selon les courbures du chemin et les inflexions du fleuve. À cette hauteur, les eaux du Danube sont encore jaunes comme celles du Tibre. à peine êtes-vous sorti du village que vous en apercevez un autre. Villages propres et riants. Souvent les murs des maisons ont des fresques. Un certain caractère italien se prononce davantage à mesure que l'on avance vers l'Autriche. L'habitant du Danube n'est plus paysan du Danube. Son menton nourrissait une barbe touffue. Toute sa personne velue représentait un ours, mais un ours mal léché. Mais le ciel d'Italie manque ici. Le soleil est bas et blanc. Ces bourgs si de rues semées ne sont pas ces petites villes de la Romagne qui couvrent les chefs-d'œuvre des arts cachés sous elles. On gratte la terre et ce labourage fait pousser, comme un épi de blé, quelques merveilles du ciseau antique. À Donauwerth, je regrettais d'être arrivé trop tard pour jouir d'une belle perspective du Danube. Lundi 21, même aspect du paysage. Cependant, le sol devient moins bon et les paysans paraissent plus pauvres. On commence à revoir des bois de pins et des collines. La forêt hercynienne débordait jusqu'ici. Les arbres dont Pline nous a laissé la description singulière furent abattus par des générations maintenant ensevelies avec les chaînes séculaires. Lorsque Trajan jeta un pont sur le Danube, l'Italie ouït pour la première fois le nom si fatal à l'ancien monde, le nom des Goths. Le chemin s'ouvrit à des myriades de sauvages qui marchèrent au sac de Rome. Les Huns et leur Attila bâtirent leur palais de bois en regard du Colisée, au bord du fleuve rival du Rhin, et comme lui, ennemi du Tibre. Les hordes d'Alaric franchirent le Danube en 376 pour renverser l'empire grec civilisé, au même lieu où les Russes l'ont traversé en 1828, avec le dessein de renverser l'empire barbare, assis sur les débris de la Grèce. Trajan aurait-il deviné qu'une civilisation d'une espèce nouvelle s'établirait un jour de l'autre côté des Alpes, aux confins du fleuve qu'il avait presque découvert? Né dans la forêt noire, le Danube va mourir dans la mer noire. Où gît sa principale source? Dans la cour d'un baron allemand, lequel emploie la naïade à laver son linge. Un géographe s'étant avisé de nier le fait, le gentilhomme propriétaire lui a intenté un procès. Il a été décidé par arrêt que la source du Danube était dans la cour du dit baron et ne saurait être ailleurs. Que de siècles il a fallu pour arriver des erreurs de Ptolémée à cette importante vérité. Tacite fait descendre le Danube du mont Abnoba, Montis Abnobae. Mais les barons Hermondur, Narisque, Marcoman et Cade, qui sont les autorités sur lesquelles s'appuie l'historien romain, n'étaient pas si avisés que mon baron allemand. Eudore n'en savait pas tant quand je le faisais voyager aux embouchures de l'Ister, où le Xin, selon Racine, devait porter Mithridate en 2 jours. Ayant passé l'Ister vers son embouchure, je découvris un tombeau de pierre sur lequel croissait un laurier. J'arrachai les herbes qui couvraient quelques lettres latines, et bientôt je parvins à lire ce premier vers des élégies d'un poète infortuné. Mon livre, vous irez à Rome, et vous irez à Rome sans moi. Martyr. Le Danube, en perdant sa solitude, a vu se reproduire sur ses bords les maux inséparables de la société. Peste, famine, incendie, saccagement de villes, guerre, et ces divisions sans cesse renaissantes des passions ou des erreurs humaines. Déjà nous avons vu le Danube inconstant, qui tantôt catholique et tantôt protestant, serre Rome et Luther de son onde, et qui, comptant après pour rien le romain, le luthérien, finit sa course vagabonde pour n'être pas même chrétien. Chapitre 8. 20 et 21 mai 1833. Ratisbonne, fabrique d'empereurs, diminution de la vie sociale à mesure qu'on s'éloigne de la France, sentiment religieux des Allemands. Après Donauwerth, on trouve Bürkheim et Neuburg. Au déjeuner, à Ingolstadt, on m'a servi du chevreuil. C'est grand pitié de manger cette charmante bête. J'ai toujours lu avec horreur le récit de la fête de l'installation de Georges Neville, archevêque d'York, en 1466. On y rôtit 400 cygnes chantant en chœur leur hymne funèbre. Il est aussi question dans ce repas de 204 butors. Je le crois bien. Regensburg, que nous appelons Ratisbonne, offre, en arrivant par Donauwerth, un aspect agréable. 2 heures sonnaient le 21 lorsque je m'arrêtai devant l'hôtel de la poste. Tandis que l'on attelait, ce qui est toujours long en Allemagne, j'entrai dans une église voisine appelée la Vieille Chapelle, blanchie et dorée tout à neuf. 8 vieux prêtres noirs à cheveux blancs chantaient les vêpres. J'avais prié autrefois dans une chapelle de Tivoli pour un homme qui priait lui-même à mes côtés. Dans une des citernes de Carthage, j'avais offert des vœux à Saint-Louis, mort non loin d'Utique, plus philosophe que Caton, plus sincère qu'Annibal, plus pieux qu'Aîné. Dans la chapelle de Ratisbonne, j'eus la pensée de recommander au ciel le jeune roi que je venais chercher. Mais je craignais trop la colère de Dieu pour solliciter une couronne. Je suppliais le dispensateur de toute grâce d'accorder à l'orphelin le bonheur et de lui donner le dédain de la puissance. Je courus de la vieille chapelle à la cathédrale. Plus petite que celle d'Ulm, elle est plus religieuse et d'un plus beau style. Ses vitraux coloriés l'enténèbrent de cette obscurité propre au recueillement. La blanche chapelle convenait mieux à mes souhaits pour l'innocence de Henri. La sombre basilique me rendit tout émue pour mon vieux roi Charles. Peu m'importait l'autel dans lequel on élisait jadis les empereurs, ce qui prouve du moins qu'il y avait des souverains électifs, même des souverains que l'on jugeait. Le 18e article du testament de Charlemagne porte « Si quelques-uns de nos petits-fils, nés ou à naître, sont accusés, ordonnons qu'on ne leur rase pas la tête, qu'on ne leur crève pas les yeux, qu'on ne leur coupe pas un membre, ou qu'on ne les condamne pas à mort sans bonne discussion et examen. Je ne sais quel empereur d'Allemagne déposé réclama seulement la souveraineté d'un clos de vigne qu'il affectionnait. À Ratisbonne, jadis fabrique de souverains, on monnayait des empereurs souvent à bas titre. Ce commerce est tombé. Une bataille de Bonaparte et le prince Primat, plat courtisan de notre universel gendarme, n'ont pas ressuscité la cité mourante. Les Regensbourgeois, habillés et crasseux comme le peuple de Paris, n'ont aucune physionomie particulière. La ville, faute d'un assez grand nombre d'habitants, est mélancolique. L'herbe et le chardon assiègent ses faubourgs. Ils auront bientôt haussé leurs plumets et leurs lances sur ces donjons. Kepler, qui de même que Copernic, a fait tourner la terre, repose à jamais à Ratisbonne. Nous sommes sortis par le pont de la route de Prague, pont très vanté et fort laid. En quittant le bassin du Danube, on gravit des escarpements. Kirn, le premier relais, est perché sur une rude côte du sommet de laquelle, à travers les nues aqueuses, j'ai découvert des collines mornes et de pâles vallées. La physionomie des paysans change. Les enfants, jaunes et bouffis, ont l'air malades. Depuis Kirn jusqu'à Waldmünchen, l'indigence de la nature s'accroît. Presque plus de hameaux. Des chaumières en rondins de sapin liées avec un gâchis de terre, comme sur les cols les plus maigres des Alpes. La France est le cœur de l'Europe. À mesure qu'on s'en éloigne, la vie sociale diminue. On pourrait juger de la distance où l'on est de Paris par le plus ou moins de langueur du pays où l'on se retire. En Espagne et en Italie, la diminution du mouvement et la progression de la mort sont moins sensibles. Dans la première contrée, un autre peuple, un autre monde, des Arabes chrétiens vous occupent. Dans la seconde, le charme du climat et des arts, l'enchantement des amours et des ruines ne laisse pas le temps vous opprimer. Mais en Angleterre, malgré la perfection de la société physique, en Allemagne, malgré la moralité des habitants, on se sent expiré. En Autriche et en Prusse, le joug militaire pèse sur vos idées, comme le ciel sans lumière sur votre tête. Je ne sais quoi vous avertit que vous ne pourriez ni écrire, ni parler, ni penser avec indépendance, qu'il faut retrancher de votre existence toute la partie noble, laisser oisive en vous la première des facultés de l'homme comme un inutile don de la divinité. Les arts et la beauté de la nature ne venant pas tromper vos heures, il ne vous reste qu'à vous plonger dans une grossière débauche ou dans ces vérités spéculatives dont se contentent les Allemands. Pour un Français, du moins pour moi, cette façon d'être est impossible. Sans dignité, je ne comprends pas la vie, difficile même à comprendre, avec toutes les séductions de la liberté, de la gloire et de la jeunesse. Cependant, une chose me charme chez le peuple allemand, le sentiment religieux. Si je n'étais pas trop fatigué, je quitterais l'auberge de Nittenau où je crayonne ce journal. J'irais à la prière du soir avec ces hommes, ces femmes, ces enfants, qu'appelle à l'église le son d'une cloche. Cette foule, me voyant à genoux au milieu d'elle, m'accueillerait en vertu de l'union d'une commune foi. Quand viendra le jour où des philosophes, dans leur temple, béniront un philosophe arrivé par la poste, offriront avec cet étranger une prière semblable à un dieu sur lequel tous les philosophes sont en désaccord? Le chapelet du curé est plus sûr. Je m'y tiens. Chapitre 9, 21 mai. Arrivée à Waldmünchen, douane autrichienne, l'entrée en Bohême refusée. Waldmünchen, où j'arrivais le mardi matin 21 mai, est le dernier village de Bavière de ce côté de la Bohême. Je me félicitais d'être à même de remplir promptement ma mission. Je n'étais plus qu'à 50 lieues de Prague. Je me plonge dans l'eau glacée, je fais ma toilette à une fontaine, comme un ambassadeur qui se prépare à une entrée triomphale. Je pars et, à une demi-lieue de Waldmünchen, j'aborde plein d'assurance la douane autrichienne. Une barrière abaissée fermait le chemin. Je descends avec Hyacinthe, dont le ruban rouge flamboyait. Un jeune douanier, armé d'un fusil, nous conduit au rez-de-chaussée d'une maison, dans une salle voûtée. Là était assis à son bureau, comme à un tribunal, un gros et vieux chef de douaniers allemands. Cheveux roux, moustaches rousses, sourcils épais descendant en biais sur deux yeux verdâtres à moitié ouverts, l'air méchant, mélange de l'espion de police de Vienne et du contrebandier de Bohême. Il prend nos passeports sans dire mot. Le jeune douanier m'approche timidement une chaise, tandis que le chef, devant lequel il a l'air de trembler, examine les passeports. Je ne m'assieds pas et je vais regarder les pistolets accrochés au mur et une carabine placée dans l'angle de la salle. Elle me rappela le fusil avec lequel l'aga de l'isthme de Corinthe tira sur le paysan grec. Après 5 minutes de silence, l'Autrichien aboie 2 ou 3 mots que mon balois traduit ainsi. « Vous ne passerez pas. »« Comment je ne passerai pas ? » ?»« Et pourquoi ?» L'explication commence. « Votre signalement n'est pas sur le passeport. » « Mon passeport est un passeport des affaires étrangères. »« Votre passeport est vieux. »« Il n'a pas 1 an de date, il est légalement valide. » »« Il n'est pas visé à l'ambassade d'Autriche à Paris. » »« Vous vous trompez, il l'est. » »« Il n'a pas le timbre sec. » »« Oubli de l'ambassade, vous voyez d'ailleurs le visa des autres légations étrangères. »« Je viens de traverser le canton de Bâle, le grand-duché de Bade, le royaume de Württemberg, la Bavière entière, on ne m'a pas fait la moindre difficulté. Sur la simple déclaration de mon nom, on n'a pas même déployé mon passeport. Avez-vous un caractère public? J'ai été ministre en France, ambassadeur de Sa Majesté très chrétienne à Berlin, à Londres et à Rome. Je suis connu personnellement de votre souverain et du prince de Metternich. Vous ne passerez pas. Voulez-vous que je dépose un cautionnement? Voulez-vous me donner une garde qui répondra de moi? Vous ne passerez pas. Si j'envoie une estafette au gouvernement de Bohême? Comme vous voudrez. La patience me manqua, je commençai à envoyer le douanier à tous les diables. Ambassadeur d'un roi sur le trône, peu m'eût importé quelques heures perdues. Mais, ambassadeur d'une princesse dans les fers, je me croyais infidèle au malheur, traître envers ma souveraine captive. » L'homme écrivait. Le Balois ne traduisait pas mon monologue, mais il y a des mots français que nos soldats ont enseignés à l'Autriche et qu'elle n'a pas oubliés. Je dis à l'interprète, « Explique-lui que je me rends à Prague pour offrir mon dévouement au roi de France. » Le douanier, sans interrompre ses écritures, répondit, « Charles X n'est pas pour l'Autriche le roi de France. » Je répliquai, « Il l'est pour moi. » Ces mots rendus au Cerbère parurent lui faire quelque effet. Il me regarda de côté et en dessous. Je crus que sa longue annotation serait en dernier résultat un visa favorable. Il barbouille encore quelque chose sur le passeport d'Hyacinthe et rend le tout à l'interprète. Il se trouva que le visa était une explication des motifs qui ne lui permettaient pas de me laisser continuer ma route, de sorte que non seulement il m'était impossible d'aller à Prague, mais que mon passeport était frappé de faux pour les autres lieux où je me pourrais présenter. Je remontai en calèche et je dis au postillon, « À Waldmünchen. » Chapitre 10, 21 mai 1833. Séjour à Waldmünchen, lettre au comte de Chotek, inquiétude, le Saint Viatique. Mon retour ne surprit point le maître de l'auberge. Il parlait un peu français, il me raconta que pareille chose était déjà arrivée. Des étrangers avaient été obligés de s'arrêter à Waldmünchen et d'envoyer leur passeport à Munich au visa de la légation autrichienne. Mon hôte, très brave homme, directeur de la poste aux lettres, se chargea de transmettre au grand bourgrave de Bohême la lettre dont suit la copie. Waldmünchen, 21 mai 1833. Monsieur le gouverneur, ayant l'honneur d'être connu personnellement de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche et de Monsieur le Prince de Metternich, j'avais cru pouvoir voyager dans les États autrichiens avec un passeport qui, n'ayant pas une année de date, était encore légalement valide et lequel avait été visé par l'ambassadeur d'Autriche à Paris pour la Suisse et l'Italie. En effet, monsieur le comte, j'ai traversé l'Allemagne et mon nom a suffi pour qu'on me laisse à passer. Ce matin seulement, monsieur le chef de la douane autrichienne de Hasselbach ne s'est pas cru autorisé à la même obligeance, et cela par les motifs énoncés dans son visa sur mon passeport ci-joint et sur celui de M. Pilorge, mon secrétaire. Il m'a forcé, à mon grand regret, de rétrograder jusqu'à Waldmünchen, où j'attends vos ordres. J'ose espérer, monsieur le comte, que vous voudrez bien lever la petite difficulté qui m'arrête, en m'envoyant par l'estafette que j'ai l'honneur de vous expédier, le permis nécessaire pour me rendre à Prague et de là à Vienne. Je suis avec une haute considération, monsieur le gouverneur, votre très humble et très obéissant serviteur. Chateaubriand. Pardonnez, monsieur le comte, la liberté que je prends de joindre un billet ouvert pour monsieur le duc de Blacas. Un peu d'orgueil perce dans cette lettre, j'étais blessé. J'étais aussi humilié que Cicéron lorsque, revenant en triomphe de son gouvernement d'Asie, ses amis lui demandèrent s'il arrivait de Baïs ou de sa maison de Tusculum. Comment, mon nom, qui volait d'un pôle à l'autre, n'était pas venu aux oreilles d'un douanier dans les montagnes d'Hasselbach. Chose d'autant plus cruelle qu'on a vu mes succès à Bâle. En Bavière, j'avais été salué de monseigneur ou d'excellence. Un officier bavarois à Waldmünchen disait hautement dans l'auberge que mon nom n'avait pas besoin du visa d'un ambassadeur d'Autriche. Ces consolations étaient grandes, j'en conviens. Mais enfin, une triste vérité demeurait, c'est qu'il existait sur la terre un homme qui n'avait jamais entendu parler de moi. Qui sait pourtant si le douanier d'Hasselbach ne me connaissait pas un peu? Les polices de tous les pays sont si tendrement ensemble. Un politique qui n'approuve ni n'admire les traités de Vienne, un Français qui aime l'honneur et la liberté de la France, qui reste fidèle à la puissance tombée, pourrait bien être à l'index à Vienne. Quelle noble vengeance d'en agir avec M. de Chateaubriand comme avec un de ces commis voyageurs si suspects aux espions. Quelle douce satisfaction de traiter comme un vagabond, dont les papiers ne sont pas en règle, un envoyé chargé de porter traîtreusement à un enfant banni les adieux de sa mère captive. l'estafette partit de Waldmünchen le 21 à 11h du matin. Je calculais qu'elle pourrait être de retour le surlendemain 23, de midi à 4h. Mais mon imagination travaillait. Qu'allait devenir mon message ? Si le gouverneur est un homme ferme et qui sache vivre, il m'enverra le permis. Si c'est un homme timide et sans esprit, il me répondra que ma demande n'étant pas dans ses attributions, il s'est empressé d'en référer à Vienne. Ce petit incident peut plaire et déplaire tout à la fois au prince de Metternich. Je sais combien il craint les journaux. Je l'ai vu à Vérone quitter les affaires les plus importantes, s'enfermer tout éperdu avec M. de Gentz pour brocher un article en réponse au constitutionnel et au débat. Combien s'écoulera-t-il de jours avant la transmission des ordres du ministre impérial ? Que deviendrai-je ? Dans quelle inquiétude seront mes amis à Paris ? Quand l'aventure s'ébrutera, que n'en feront point les gazettes ? Que d'extravagances ne débiteront-elles pas ? D'un autre côté, M. de Blacas sera-t-il bien aise de me voir à Prague ? M. de Damas ne croira-t-il pas que je viens le détrôner ? M. le cardinal de Latil n'aura-t-il aucun souci ? Le triumvirat ne profitera-t-il pas de la malencontre pour me faire fermer les portes au lieu de me les faire ouvrir ? Rien de plus aisé. Un mot dit à l'oreille du gouverneur, mot que j'ignorerai toute ma vie. Et si l'estafette ne rapporte rien ? Si le paquet a été perdu ? Si le grand bourgrave ne juge pas à propos de me répondre ? S'il est absent ? Si personne n'ose le remplacer ? Que deviendrai-je sans passeport ? Où pourrais-je me faire reconnaître ? À Munich ? À Vienne ? Quel maître de poste me donnera des chevaux ? Je serai de fait prisonnier dans Waldmünchen. Voilà les dragons qui me traversaient la cervelle. Je songeais de plus à mon éloignement de ce qui m'était cher. J'ai trop peu de temps à vivre pour perdre ce peu. Horace a dit « Carpe diem ». Cueillez le jour, conseil du plaisir à 20 ans, de la raison à mon âge. Fatigué de ruminer tout le cas dans ma tête, j'entendis le bruit d'une foule au dehors. Mon auberge était sur la place du village. Je regardais par la fenêtre un prêtre portant les derniers sacrements à un mourant. Qu'importaient à ce mourant les affaires des rois, de leurs serviteurs et du monde ? Chacun quittait son ouvrage et se mettait à suivre le prêtre. Jeune femme, vieille femme, enfants, mères avec leurs nourrissons dans leurs bras, répétaient la prière des agonisants. Arrivé à la porte du malade, le curé donna la bénédiction avec le saint viatique. Les assistants se mirent à genoux en faisant le signe de la croix et baissant la tête. Le passeport pour l'éternité ne sera point méconnu de celui qui distribue le pain et ouvre l'hôtellerie aux voyageurs.